Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, à vous qui participez à ce mardi d'éthique publique du Centre Sèvres, en partenariat avec la revue Études, sur le thème des tensions entre Russie et Ukraine comme symptôme des difficultés du post-communisme. Je suis François Hevet, rédacteur en chef de la revue Études et co-animateur avec Jean-Luc Poutier, directeur du département d'éthique publique du Centre Sèvres, de ce cycle de conférences mensuelles sur des thèmes d'actualité. Ces derniers temps, la Russie fait de nouveau parler d'elle. Le procès, suivi d'emprisonnement d'Alexeï Navalny, a suscité de nombreux commentaires et surtout de nombreuses manifestations dans le pays, qui s'ajoutent à d'autres expressions publiques de mécontentement à l'égard du gouvernement. Pourtant, le pouvoir, toujours fort, de Vladimir Poutine, qui a, il y a quelque temps, modifié la Constitution pour se faire réélire quasiment sans limite, ne semble pas menacé dans le court terme. Dans le même temps, la Russie cherche à affirmer, à réaffirmer son statut de grande puissance, en particulier sur le plan militaire. La tension monte ces derniers temps dans les relations avec l'Occident, présentée dans certaines déclarations officielles comme inamicale. Sanctions économiques, expulsion de diplomates, interdiction croisée de visa pour des personnalités, etc. L'un des lieux caractéristiques de tension est la relation entre la Russie et l'Ukraine. Il y a quelques semaines, d'importants déplacements de troupes russes à la frontière avec ce pays avaient soulevé des inquiétudes. Une tension qui semble en partie retomber, mais l'Ukraine orientale reste une zone de guerre où l'on meurt tous les jours. En 2019, les Ukrainiens avaient élu le président Volodymyr Zelensky en espérant qu'il trouverait une issue à ce conflit. Mais cette issue semble encore loin. Comment l'Ukraine peut-elle se positionner avec un voisin russe qui s'oppose à tout rapprochement avec l'OTAN, avec l'OTAN ou l'Union européenne? Et récemment, la Turquie, ce voisin de la mer Noire, est entrée dans le jeu. Les États-Unis de Joe Biden observent la situation avec attention. Comment tout cela peut-il finir? Comment la Russie peut-elle retrouver d'autres relations avec le monde occidental? Comment la relation entre l'Ukraine et la Russie peut-elle s'apaiser? Pour aborder ces questions complexes qui nous concernent, ce sont des pays européens, nous avons ce soir invité Tatiana Castoué-Vajan et Alexandra Goujon. Tatiana Castoué-Vajan dirige le département Russie et Nouveaux États indépendants à l'Institut français des relations internationales, IFRI. Elle est l'auteur de La Russie de Poutine en 100 questions aux éditions Talendier en 2018 et elle participe régulièrement au rapport annuel Ramsès de l'IFRI. Alexandra Goujon est politologue, spécialiste de l'Europe orientale, de l'Ukraine tout particulièrement. Elle est maître de conférences à l'Université de Bourgogne et enseigne également à Sciences Po. Elle est l'auteur, entre autres, de Révolution politique et identitaire en Ukraine et en Biélorussie, aux éditions Belin en 2009. Je leur laisse la parole pour deux exposés de 15 minutes chacun, suivis d'un temps d'échange entre elles, et ensuite nous aborderons les questions de l'assistance. Donc je laisse d'abord la parole à Tatiana. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez la parole.
Bonjour à tous, merci beaucoup Monsieur Hevet pour ce parfait cadre que vous avez posé pour nos exposés. Merci pour l'invitation de nous accueillir dans le cadre de débat du Centre Sèvres et de votre revue Études pour laquelle j'ai eu le plaisir d'écrire il y a un certain temps maintenant sur l'évolution de la société russe, si je me souviens bien. Alors, je vais me concentrer vraiment sur le titre de notre sujet aujourd'hui, Russie, Ukraine, deux sociétés voisines et en conflit. Je vais commencer par un souvenir personnel. J'ai fait un voyage en Ukraine à la fin des années 2000, donc bien avant 2008, bien avant le conflit actuel, et j'ai visité plusieurs régions dont j'ai gardé un souvenir très intéressant. J'ai gardé le souvenir de Kiev, très cosmopolite où les gens parlaient très facilement russe et presque plus russe qu'ukrainien dans les rues. J'ai gardé le souvenir de la Crimée qui m'avait renvoyé à mon enfance soviétique. J'avais trouvé qu'à l'époque, la Crimée, l'Ukraine n'avait pas suffisamment investi en Crimée et qu'on trouvait en Crimée ce bout de l'URSS qui n'existait plus ni à Moscou, ni à Yekaterinbourg, dont je suis originaire. Et le souvenir le plus marquant, c'était à Lvov, où j'ai visité le musée des victimes du goulag, et où une sorte de dissonance cognitive, parce que je voyais les objets personnels et les lettres des personnes qui ont été renvoyées dans le goulag, mais en lisant les décrets qui les envoyaient dans le goulag, je comprenais qu'il s'agissait des membres de l'armée insurrectionnelle ukrainienne qui étaient considérés à l'époque comme des traîtres et comme des collaborateurs, donc des sentiments extrêmement controversés. Et c'est peut-être la première fois avec mon background soviétique que je comprenais à quel point l'histoire pouvait être différente des deux côtés de la frontière. Et le problème de mémoire historique, en vérité, est très important. Il a joué dans le conflit en 2014 entre l'Ukraine et la Russie. Si vous vous souvenez, les Russes ont parlé des fascistes à Kiev, de la junte fasciste, du retour des partisans de Bandera, du spectre des exactions, etc. 2014, en fait, représente un véritable point de rupture pour les deux pays. La Crimée, pour l'Ukraine, c'est un choc, mais le Donbass, c'est une plaie qui reste une plaie saignante. 14 000 militaires et civils qui sont morts, et comme a dit M. Huvé, les gens continuent à mourir. Tous les mois, il y a quelques personnes, voire quelques dizaines de personnes au pic des tensions qui continuent à périr au front sur la ligne de contact. Il y a aussi des personnes déplacées qui sont au nombre extrêmement important. Une partie des Ukrainiens de cette région de Donbass sont partis vers la Russie, d'autres vers le territoire ukrainien, et ils sont au nombre de 1 400 000, ce qui est énorme. La solution reste toujours introuvable au bout de 7 ans, et les approches sont très différentes des deux pays. La Russie estime qu'il s'agit, c'est le discours officiel, qu'il s'agit d'une guerre civile et la Russie joue le rôle de médiateur dans ce conflit. Pour les Ukrainiens, il s'agit de l'agression de la Russie et la partie est une partie prenante au conflit. Et en fait, c'est pas seulement du discours, c'est vraiment quelque chose qui empêche la résolution du conflit. Après la dernière escalade, Zelensky et Poutine, finalement, se sont fait des propositions de rencontres et de conversations, mais qui n'étaient pas acceptables pour l'autre partie. Justement, Zelensky proposait de se retrouver au Donbass et Vladimir Poutine renvoyait les Ukrainiens à la discussion dont ils auraient besoin avec les chefs des républiques séparatistes et non pas avec la Russie. Et en revanche, Poutine invitait Zelensky à discuter à Moscou, ce qui et ne souhaitait surtout pas discuter de Donbass, mais de tous les autres problèmes dans les relations bilatérales. Voilà donc des positions qui sont incompatibles. Pourquoi cette crise entre les deux pays a été aussi violente? Côté ukrainien, il s'agissait vraiment des intérêts vitaux, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale. Et côté russe, les pays de la CEI, de la communauté des États indépendants, c'est-à-dire les anciennes républiques soviétiques moins les États baltes, figuraient comme la priorité dans toutes les doctrines stratégiques russes. Ils sont importants dans la culture stratégique russe pour assurer la sécurité des frontières contre les menaces militaires classiques, transnationales, aussi contrer les influences des puissances tierces et aussi pour assurer les intérêts économiques et maintenir l'influence culturelle et informationnelle. L'Ukraine s'est retrouvée vraiment au cœur, à la croisée de plusieurs intérêts russes et la Russie a cru que tous ces intérêts étaient menacés. La crise autour de ce pays en 2014 a été perçue à la fois comme une menace pour l'influence russe dans l'espace post-soviétique face à l'avancée de l'Union européenne et de l'OTAN, mais aussi une menace pour les intérêts économiques, commerciaux, industriels, parce qu'on sait que les liens entre la Russie et l'Ukraine en matière du complexe militaro-industriel étaient extrêmement étroits. Aussi la menace pour le transit énergétique et pour le projet de l'Union d'intégration eurasiatique, qui a été annoncé finalement un an plus tard, en 2015. C'est aussi que l'Ukraine montrer l'exemple d'une révolution de couleur potentiellement contagieuse et dangereuse aux yeux du Kremlin, qui a abouti au renversement d'un régime en place. En outre, il y avait la Crimée, qui avait la valeur stratégique, militaire, l'accès aux mers chaudes, le point de stationnement de la flotte russe. Et en même temps, pour moi, la Crimée, c'est un cas qui ne peut pas être produit ailleurs. Je n'ai pas cru en 2014, à la suite de l'invasion russe d'autres régions de l'Ukraine, je ne pensais pas, lors de la dernière escalade militaire le mois dernier, que la Russie va finir par envahir un bout de l'Ukraine, faire le couloir jusqu'à la Transnistrie. Et que sais-je d'autre? Entretenir dans le Donbass, ça a un prix, y compris un prix financier. Et on voit en ce moment que la Russie réduit ses dépenses pour entretenir les différents États non reconnus, les États clients, etc. Et le Donbass est finalement beaucoup plus utile s'il est au sein de l'Ukraine, s'il joue en quelque sorte le rôle de cheval de Troie et qui empêche l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne. Du coup, avec ces approches très différentes, les accords de Minsk sont dans l'impasse depuis 2014-2015. Et très honnêtement, j'ai une vision assez pessimiste des accords de Minsk. Je pense qu'ils ont été extrêmement utiles sur le coup. Ils ont été signés quand il y avait des débats à des Baltseves et il y avait des personnes, des soldats ukrainiens notamment, qui risquaient de mourir. Donc le président Poroshenko a été forcé de signer les accords de Minsk, mais qui contiennent à l'intérieur de véritables risques pour l'intégrité territoriale, pour la souveraineté, pour les choix stratégiques de l'Ukraine. C'est pour ça que je pense que quel que soit le président Poroshenko, Zelensky et le président après lui, ils auront énormément de mal à faire appliquer les accords de Minsk. Pas par la mauvaise volonté, mais parce qu'il y a aussi la société ukrainienne qui ne laissera pas faire. On a vu que quand Zelensky était à Paris, il y avait des gens qui attendaient sur le Maïdan les annonces qui allaient sortir de cette réunion pour ensuite protester au cas où Zelensky aurait trahi les intérêts nationaux. La position de la Russie aujourd'hui est très ferme. Il faut appliquer les accords de Minsk à la lettre. Côté ukrainien, comme je disais, l'application à la lettre comporte des risques pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. L'Ukraine cherche à moduler les accords de Minsk, à inverser les séquences, à inverser le calendrier, voire à rajouter d'autres puissances comme partie prenante dans la négociation, et notamment la Grande-Bretagne et les États-Unis. Pourquoi ces deux pays-là? Ces deux pays-là sont signataires du mémorandum de Budapest qui a été signé en 1994 et par lequel l'Ukraine acceptait de transférer les armes nucléaires qui basées sur son territoire à la Russie, et en échange, la Russie, avec la caution de la Grande-Bretagne et des États-Unis, garantissait l'intégrité territoriale et la souveraineté ukrainienne. La Russie occupe aujourd'hui une position assez contradictoire vis-à-vis de l'Ukraine. En même temps, il dit que c'est un peuple divisé. On peut souvent entendre les Russes de dire « c'est le même peuple, c'est la même chose, les Russes et les Ukrainiens ». En même temps, il y a une propagande virulente anti-ukrainienne sur les chaînes de télévision russes depuis 2014. Et la Russie distribue aussi des passeports russes dans cette région de l'Ukraine, dans le Donbass. Et aujourd'hui, ce nombre de passeports monte à 700 000 personnes. Donc, à la mi-février, c'est le chiffre qui a circulé, ce qui est assez énorme. Et c'est pas anodin, parce que depuis 2008, la Russie a une loi qui permet d'aller défendre manu militari les compatriotes russes à l'étranger. Donc, quand on distribue les passeports, on se donne aussi le droit d'aller défendre par la suite ses compatriotes avec les armes à la main, ce qu'on voit que c'est extrêmement dangereux. La dernière escalade au mois de fin février, au mois de mars, a été due à plusieurs choses. Je disais, je ne croyais pas à l'invasion, mais néanmoins, cette escalade était quand même extrêmement inquiétante parce qu'un dérapage est toujours possible. Je pense que la première cible de cette escalade, des troupes militaires qui étaient ramassées à la frontière ukrainienne, la première cible était le président Zelensky, qui en 2 ans a eu une évolution assez forte. Alexandra en parlera, mais il a progressivement évolué vers les positions du président Poroshenko, voire il est allé sur plusieurs dossiers beaucoup plus loin. Il a fermé trois médias pro-russes. Il a lancé des attaques, des sanctions contre Viktor Medvedchuk, qui est l'homme de Vladimir Poutine, un proche, le parrain de sa fille, de la fille de Vladimir Poutine, qui est son homme en Ukraine. Il a remis sur le tapis la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne. Et il a aussi remis la question de la Crimée, qui est mise de côté dans les relations depuis 2014, dans les relations entre l'Ukraine et la Russie, et aussi la Russie et l'Union européenne. Donc la question de l'intégration dans le vocabulaire russe et l'annexion dans le vocabulaire ukrainien de la Crimée a été vraiment mise de côté, et Vladimir Zelensky essaie de la remettre à l'ordre du jour et de lier cette question avec la problématique du Donbass, en créant la plateforme internationale sur la Crimée, ce qui évidemment ne peut pas plaire à Vladimir Poutine, pour qui la Crimée est une belle vitrine de la réussite russe. On sait qu'il y a eu un ministère de la Crimée, qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans cette région. Des choses ont avancé, notamment en matière d'électricité, d'énergie. Un gros point qui reste non résolu, c'est le point d'approvisionnement en eau de l'Ukraine. Et ça aussi, c'est un point d'irritation pour le Kremlin. Et via Zelensky, la pression a été faite sur les partenaires européens qui sont engagés dans le cadre du processus de Minsk, Berlin et Paris, mais aussi sur Joe Biden, le nouveau président américain, qui avait pris une pause de 2 mois à peu près sans réagir trop ni sur le front ukrainien ni sur le front russe. Donc c'était une manière aussi d'obtenir les premières réponses de sa part, ce qui est tombé finalement parce que Biden a appelé Poutine et lui a proposé un sommet bilatéral qui aura très probablement lieu au mois de juin. Je voudrais insister sur deux points qui sont pour moi très importants entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui. Le premier, ça concerne la société civile. La société civile ukrainienne, je l'associe à Alexandra en parler, mais pour moi, elle est extrêmement active. Elle est très vigilante, prête toujours à descendre dans les rues, à aller faire la pression sur les autorités, y compris le président. Et ce que les Russes ne comprennent peut-être pas assez, que le président Zelensky n'est pas le seul à prendre les décisions et qu'il a cette société très active, y compris sa frange nationaliste, qui l'attend au coin. Et en Ukraine, et l'Ukraine a connu 6 présidents pendant l'époque post-soviétique, qui sont tous vivants. Et avec Zelensky, c'est une nouvelle génération de leaders qui vient, et une génération de leaders qui porte les valeurs européennes, et parfois qui est prête à les défendre presque plus fortement que nous aujourd'hui dans nos sociétés européennes. Les valeurs comme la démocratie, les droits de l'homme, la liberté d'expression, etc. La situation en Russie est très différente. On voit bien que la population, il y a un pourcentage de gens qui sont extrêmement actifs, qui sont prêts à descendre dans les rues pour défendre, y compris les valeurs européennes, les valeurs occidentales. Mais une grande masse continue à soutenir Vladimir Poutine, hein, dont le taux de popularité aujourd'hui est de 63%. C'est certes moins que ça ne pouvait être au moment de l'annexion de la Crimée. Ça a pu monter jusqu'à 85-86%. Donc il y a quand même une perte de plus de 20 points dans le taux de popularité. Néanmoins, Poutine reste approuvé par la majorité de la population, en tout cas dans les sondages. Si on creuse un petit peu et si on demande si les choses vont dans la bonne direction, si les gens sont satisfaits de comment ça se passe dans le pays, etc., l'image est beaucoup plus contrastée. Il y a quand même, on sent beaucoup de mécontentement accumulé dans le pays. Il y a le niveau de vie qui, depuis 2014, finalement, 2013, si je prends l'année avant l'annexion de la Crimée, a chuté de plus de 10%. Et ça, les gens le ressentent. Ils souhaitent que le président se reconcentre sur les problématiques sociales et économiques du pays, bien plus que sur les aventures extérieures. Là, la population russe ne soutient plus d'une part, ne souhaite pas revenir sur les acquis, donc il n'est pas question de rendre la Crimée ou de revoir tout le discours, tout le narratif sur le conflit à l'est de l'Ukraine, mais en même temps, le conflit en Syrie l'a montré, les nouvelles escapades, les nouvelles aventures militaires n'ont pas du tout le même accueil dans la population russe que l'annexion de la Crimée a pu avoir. Donc voilà, je disais le premier point de divergence, c'est vraiment les évolutions des sociétés. Et le deuxième point, c'est la politique étrangère. L'Ukraine mène aujourd'hui une politique très active. L'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne est dans sa constitution. Elle est à la recherche des alliances, notamment des alliés pro-ukrainiens pour construire des coalitions. Et elle s'active dans toutes les directions. La Chine, la Turquie, elle cherche à engager Biden et les États-Unis. La Russie, c'est une autre paire de manches. La politique étrangère russe ne craint plus les situations et les relations conflictuelles. Au contraire, elle s'entargue. Au début de la semaine, il y avait une petite liste discutée sur tous les talk-shows qui est préparée par le ministère des Affaires étrangères. C'est une liste des pays ennemis, des pays non amicaux à l'égard de la Russie. Et dans cette petite dizaine de pays, l'Ukraine figure en bonne place. La Russie aujourd'hui se positionne en forteresse assiégée qui trace des lignes rouges. C'était dans le dernier discours de Poutine. La Russie définit où sont les lignes rouges et de quelle manière elle va punir ceux qui franchissent ces lignes rouges. Elle rejette les valeurs occidentales, les droits de l'homme aujourd'hui où la liberté d'expression n'ont plus cours pour la majorité des Russes. Elle ne cherche pas les alliances, comme disait Alexandre III. La flotte et l'armée sont les meilleurs alliés de la Russie. Même les alliés les plus proches n'ont pas reconnu l'annexion de la Crimée, d'ailleurs, y compris la Biélorussie. Et depuis l'année dernière, depuis la réforme constitutionnelle qui permet, c'est une option, à Vladimir Poutine de rester au pouvoir au moins jusqu'à 2036, en fait, la Russie, aujourd'hui, ne défend plus du tout les mêmes valeurs. Elle parle plutôt des valeurs traditionnelles et on parle aussi, beaucoup d'experts notent ces touches cette tendance à l'autarcie et à l'isolationnisme hein, qui sont présentes dans la politique étrangère russe qui sont pas nouvelles d'ailleurs. Si je vais à la conclusion, je voudrais juste souligner trois points. Le premier, c'est que, comme je disais, le conflit entre les deux pays ne sera pas réglé rapidement, tellement les positions sont différentes. Et on peut raisonnablement supposer que les choses vont passer par le scénario de la Transnistrie, cette république séparatiste en Moldavie qui, depuis plus de 3 décennies, reste dans la même situation, dans le même cas du conflit gelé. Et il y a des générations entières qui ont grandi aujourd'hui sans savoir qu'il y a une autre situation qui avait existé auparavant. Pour la Russie, ce n'est pas une situation confortable, bien évidemment, parce que les pays occidentaux, l'Union européenne et les États-Unis, ont fait ce conflit-là une partie intégrante de leur politique à l'égard de la Russie. Si vous prenez les 5 principes de la politique russe de l'Union européenne, qu'on appelle les principes de Mogherini, le premier, c'est la condition d'avancer dans les accords de Minsk. Il n'y a que ça qui permettrait de lever une partie ou totalement les sanctions à l'est de l'Ukraine. Deuxièmement, au-delà du conflit lui-même, comme je disais, je vois ces deux trajectoires très différentes au niveau de la société, au niveau de la politique intérieure et au niveau de la politique internationale entre les deux pays. Comme a formulé récemment mon contact, un moniteur en fait de l'OCDE en Ukraine, il avait dit l'Ukraine, comme la Géorgie, pourtant beaucoup plus proche par l'histoire, est perdue comme relais d'influence pour la Russie. Donc, je vois ces trajectoires inévitablement divergentes de plus en plus. Mais il y a quand même quelques points positifs pour finir sur la touche optimiste. Quand vous regardez les sondages, en dépit de toute la propagande anti-ukrainienne dont j'ai parlé, etc., il y a quand même toujours au mois de février de cette année 55% des Russes qui voient l'Ukraine positivement. Et ce pourcentage est de 68 parmi les jeunes. Donc, en dépit de tout ce qu'on peut créer comme narratif, comme discours, etc., il y a quand même les populations qui, Alexandra peut-être citera les chiffres côté ukrainien si c'est aussi le cas, j'ai cru voir que c'était aussi proche en dépit du conflit. Donc ça laisse quand même de l'espoir. J'ai vu aussi qu'il y a l'église maintenant, l'autocéphale ukrainienne qui a été créée. Je craignais que ça allait être un gros coin inséré entre les deux sociétés, etc. Et je vois que finalement, ça jouait un rôle peut-être moindre que le président Poroshenko aurait pu espérer. Il y a aussi le commerce qui continue à lier les deux pays. La Russie reste ou le deuxième ou le troisième partenaire commercial en dépit de la guerre à l'est de l'Ukraine, en dépit de la relation dégradée, ce qui fait que comme ces dimensions-là existaient dans les univers un petit peu parallèles. Voilà pour finir sur la touche un peu plus optimiste que le reste de l'exposé, et je ne sais pas si Alexandra partagera mon optimisme de la fin.
Merci, merci Tatiana pour ce premier exposé. Donc, je rappelle que vous êtes la directrice du département Russie et Nouveaux États indépendants de l'IFRI, spécialiste de la Russie. Merci de nous avoir introduit à cette situation complexe et conflictuelle, mais avec quand même peut-être quelques signes que les choses ne sont pas aussi figées qu'on pourrait le voir. Même si, encore une fois, si le poids de la mémoire est important, on pourra peut-être y revenir et que bon, les choses peuvent bouger. Donc, dans le cadre de ce mardi d'éthique publique du Centre Sèvres et de la revue Études consacrée au rapport entre la Russie et l'Ukraine, je laisse donc maintenant la parole à Alexandra Goujon pour donc son intervention qui portera plus directement sur l'Ukraine. Voilà, merci de votre intervention par avance.
Bonjour à tous, donc merci pour cette invitation. Alors je vais rebondir directement sur peut-être le dernier point sur toute cette question de dissociation ou d'animosité ou au contraire d'amitié. Je ne crois pas. Alors en Ukraine, bien évidemment, il y a le sentiment aujourd'hui que, et les sondages le montrent, que la Russie est un pays agresseur. Et ça, la majorité des Ukrainiens l'attestent, notamment, le considèrent comme tel, hein, à travers donc ce que Tatiana a pu appeler justement côté ukrainien, ce qu'on considère comme étant une annexion de la Crimée et une intervention russe dans l'est de l'Ukraine. Il n'en reste pas moins que on a souvent parlé, bon là on irait un petit peu trop loin, mais d'attitudes anti-russes, pro-européennes. Bien évidemment, j'aimerais nuancer ce propos, puisque il faut avant tout penser l'Ukraine comme elle est, et si on demande aux Ukrainiens ce qu'ils sont, ils vous diront qu'ils sont Ukrainiens. Et encore plus depuis le conflit dans le Donbass et l'annexion de la Crimée. C'est-à-dire que ce conflit a développé un patriotisme important, mais un patriotisme qui n'a pas nécessairement besoin d'ennemis. Bien évidemment, le conflit a généré une animosité qui n'existait sans doute pas à ce stade auparavant. Je pense que souvent, c'est un peu le problème. On considère qu'en Ukraine, on est pro-occidental ou anti-russe. Or, on est avant tout pro-ukrainien en quelque sorte. Et ce conflit, il l'a montré, a permis de réunir d'ailleurs des personnes qui peuvent parler russe, ukrainien, être de différentes confessions et en même temps de vouloir défendre le pays. Par ailleurs, lorsqu'on parle de cette relation à la Russie et lorsqu'on dit pro-russe notamment ou anti-russe, j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait voir de quoi on parlait. Hein. La question en Ukraine n'est pas une question de vouloir, essayons d'inverser un petit peu les perspectives, envahir la Russie, la conquérir, prendre des territoires. La question, c'est que l'Ukraine cherche sa propre place, en fait, dans cet environnement. Elle a un État indépendant depuis 91 et elle le défend. Et dans cette question de la relation à la Russie, la question qui se pose, c'est quel type de relation avec la Russie? Et n'oublions pas que le point de départ du conflit, c'est cette révolution en Ukraine qui s'est faite sur un accord d'association avec l'Union européenne. et que ce qui ne plaît pas à la Russie dans cette histoire, c'est la question d'un accord commercial, un accord de libre-échange entre l'Ukraine et l'Union européenne. Et là, on voit très bien cette politique russe qu'on avait déjà vue et qu'on voit d'ailleurs à l'égard d'autres pays, hein, d'alliés, y compris la Biélorussie, de pression économique, hein, pour créer cet ensemble régional qui est l'Union eurasiatique. C'est-à-dire que la Russie ne souhaite pas être une puissance d'un seul pays. Elle veut être une puissance avec plusieurs pays autour. Et il y a des formes de miroir entre cette Union eurasiatique et l'Union européenne. La Russie se considère comme une puissance européenne, eurasiatique, mais dans eurasiatique, il y a européenne. Et donc, la question qui se pose, notamment dans les relations avec la Russie, c'est est-ce que la Russie respecte la souveraineté ukrainienne ? Est-ce que la Russie respecte la souveraineté ukrainienne au point de lui laisser, de ne pas porter atteinte à son intégrité territoriale et de lui laisser des choix en matière de politique étrangère? Et c'est là où on voit qu'il y a une limite. Puisque c'est bien un problème de choix en termes de politique étrangère qui a entraîné, cette problématique de l'intégrité territoriale. Donc en fait, la question qui se pose, c'est quel type de relation l'Ukraine doit avoir avec la Russie, hein. Et par exemple, l'accord de libre-échange avec l'Union européenne permettait de maintenir l'accord de libre-échange avec la Russie, qui existait. Sauf que les Russes l'ont dénoncé en quelque sorte, hein. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que justement, ce qu'ils veulent, c'est que l'Ukraine rentre dans une union douanière, donc que les relations économiques russo-ukrainiennes soient beaucoup plus liées, beaucoup plus interdépendantes. Je n'irai pas jusqu'à dire de recréer l'interdépendance soviétique, mais on est quand même dans cette filiation, hein, d'interdépendance économique. Donc voilà l'animosité, si je puis dire, à l'égard de la Russie en Ukraine, elle est vraiment liée aujourd'hui à ces deux moments de l'annexion de la Crimée et de la question de l'implication de la Russie dans l'est de l'Ukraine. Alors justement, pour revenir sur ces questions, moi je crois que c'est important de replacer un petit peu les choses. C'est-à-dire que la Russie, dans cette question de résolution du conflit, elle se pose en acteur et en médiateur. C'est-à-dire que quand elle le veut, elle se pose en médiateur. Et lorsque, à un moment donné, les choses lui échappent, elle se place en acteur. Et en fait, elle joue sans arrêt ce double jeu, en quelque sorte. Nous n'intervenons pas réellement. En même temps, on accorde des passeports aujourd'hui, donc, comme l'a dit Tatiana, dans ces régions. Mais nous n'intervenons pas. Alors, les images satellites nous montrent quand même qu'il y a des armes qui circulent. Et on veut rester en dehors. Débrouillez-vous avec les séparatistes. Et en même temps, si jamais un accord pouvait avoir lieu entre séparatistes et Ukrainiens, les Russes arriveraient immédiatement. Parce qu'en fait, il y a un acteur dont on ne parle pas. Ce sont justement les dirigeants des républiques séparatistes, hein, de Donetsk et de Lugansk, et qui, eux, ne souhaitent pas forcément ce que souhaite la Russie. Ne souhaitent pas forcément un statut spécial, ne souhaitent pas forcément une fédération. Hein ? Une partie d'entre eux voulaient, et sont d'ailleurs déçus qu'il n'y ait pas ce rattachement avec la Russie. Et d'ailleurs, cette citoyenneté, est-ce qu'elle n'est pas faite pour relier davantage l'utilisation du rouble aussi ? Est-ce qu'elle n'est pas faite pour relier davantage ces républiques à la Russie ? Alors même que je suis entièrement d'accord avec Tatiana, la Russie n'a aucun intérêt à les rattacher. Et pour ça, Tatiana en a parlé, on a la Transnistrie, on a la Prasie, l'Ossétie du Sud, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine s'est passé et se passe ailleurs, dans l'espace post-soviétique. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut être un peu pessimiste ? C'est qu'aucun des conflits dans lesquels est impliquée la Russie, gelé ou pas gelé. On a vu le Haut-Karabakh récemment. Ne sont résolus. Et en l'occurrence, les trois États qui sont, comment dire, concernés par ce séparatisme. L'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie sont ceux qui sont aujourd'hui le plus liés à l'Union européenne et qui, pour l'Ukraine ou la Géorgie, demandent donc un processus d'adhésion à l'OTAN, ce qui contribuera bien évidemment à montrer à la Russie qu'il y a un danger, puisque la Russie ne veut absolument pas que ces pays-là donc intègrent un jour l'OTAN. Donc je pense que il y a quand même ce troisième acteur que l'on ne doit pas oublier et dont se sert d'ailleurs la Russie et qui n'est pas toujours au garde à vous par rapport à ce que dit la Russie. Donc troisième acteur et puis dans cette histoire là il faut revenir justement sur la position de Zelensky. Je ne pense pas qu'en fait Zelensky empêche la résolution du conflit aujourd'hui. Zelensky est arrivé c'est un outsider et qui a relancé les négociations. Il a tout fait pour qu'il y ait un sommet en format de Normandie qui s'est tenu à Paris en 2019. Et il s'est montré de très bonne volonté. D'ailleurs, il y a eu des avancées, des échanges de prisonniers, par rapport à la ligne de contact qui sépare donc le côté séparatiste du côté ukrainien, il y a eu des retraits de troupes. Il a engagé d'ailleurs aussi un certain nombre de reconstruction de ponts. Il a tendu la main, si je puis dire, à ces régions. Hein. La question qui se pose, Tatiana en a parlé, c'est la question de l'agenda. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Ukraine souhaite. Et pourquoi la Crimée est dans son agenda? Mais il l'a dit dès le départ, dès 2019, c'était son discours. L'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est le Donbass et la Crimée. Alors, certes, il a relancé là très récemment cette plateforme pour la Crimée, mais il n'a cessé d'en parler. En tous les cas, pas au sommet de Normandie. Et lorsqu'on lui a posé la question, d'ailleurs, on lui a dit, mais la Crimée, il a dit, la Russie ne veut pas en entendre parler, ne veut pas l'inclure dans les accords de Minsk. Donc je n'en parle pas, c'est une des conditions russes, ne pas parler de la Crimée lorsqu'il y a les réunions donc avec les dirigeants français, allemands, russes et ukrainiens. Mais l'idée que la Crimée reviendra à l'Ukraine, c'est quelque chose qu'il a dit dès son élection, c'était à l'agenda, si je puis dire, à l'agenda politique. Donc l'intégrité territoriale, c'est la première question, c'est-à-dire récupérer le contrôle de la frontière. Alors que les Russes veulent que soit inscrit dans la Constitution un statut spécial du Donbass. Et je crois que là où la stratégie russe de déstabilisation de l'Ukraine, puisque c'est ce que je crois, c'est-à-dire que cette intervention militaire dans le Donbass est faite pour déstabiliser l'Ukraine, pour l'empêcher d'avoir l'intégrité de son territoire. Pourquoi ? Parce que quelle structure internationale comme l'OTAN, l'Union européenne est prête à accepter un État qui ne maîtrise pas l'ensemble de son territoire, hein. Je suis aussi d'accord avec Tatiana pour parler de plaie, mais parce que ce que réussit à faire la Russie avec cette stratégie du séparatisme, encore une fois, qui existe dans d'autres États, c'est de diviser profondément les sociétés. C'est-à-dire que la société ukrainienne, mais on pourrait dire la même chose de la société moldave ou géorgienne, bien évidemment, la population est divisée sur le champ des possibles. Hein. Il y a ceux qui pourraient dire, même si ce n'est pas politiquement correct, abandonnons ces territoires. Après tout, Laissons-les et continuons à construire l'Ukraine sans cette partie du Donbass, 16 000 km², qui est même pas tout le Donbass, en fait, hein, qui sont deux régions d'Ukraine qui sont coupées en deux, en fait. Et puis, il y a les soldats qui ont combattu, les familles qui ont perdu des enfants, les soldats qui sont aujourd'hui sur la ligne de contact pendant des contrats de 3 ans, c'est très très long, et qui en fait sont très très en prise avec ce conflit, avec les morts qu'il peut y avoir régulièrement. Lorsque Tatiana parlait de la pression de la société, cette pression, elle est notamment aujourd'hui par rapport à ce que pourrait faire le président ukrainien, elle vient notamment de toutes ces familles, notamment de combattants, qui ont vu le conflit de près et qui n'ont pas la même perception des séparatistes qui sont en face, notamment des séparatistes, donc je parle de ceux qui combattent, hein, militarisés, qu'une autre partie de la société qui est peut-être moins concernée. On a aussi, on pourra y revenir éventuellement dans la discussion, une perception un petit peu différente du conflit si on est dans le Donbass lui-même, côté ukrainien. Je m'y rends, alors là depuis le Covid un peu moins, mais depuis 2015 je vais assez régulièrement dans cette partie du territoire, et où on a un lien avec bien évidemment les territoires séparatistes, de l'aide humanitaire, hein, qui est une perception que le conflit est proche, alors que lorsqu'on est à Kiev ou à Lviv, bien évidemment c'est pas tout à fait le même ressenti. Alors, si la position du président ukrainien a changé, c'est en raison du blocage, hein, et du fait que, en fait, dans les négociations, en dehors de ces échanges de prisonniers, s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rien obtenir de la Russie, qu'il n'y aurait pas de récupération de cette frontière. Que cette condition première, hein, de récupération de la frontière, démilitarisation et après élection, eh bien que ce scénario, hein, ce séquençage, ne pourrait pas être obtenu. Donc il y a une sorte de blocage et qui entraîne en fait cet activisme diplomatique dont a parlé Tatiana, et qui effectivement, l'Ukraine est en position de faiblesse. Elle a affaire à un voisin qui est beaucoup plus fort militairement, géopolitiquement, et ce dont a peur l'Ukraine aujourd'hui, c'est d'être abandonnée, on va dire, hein, ou un petit peu mise de côté par ses partenaires un peu traditionnels qui, depuis le début du conflit, la soutiennent en adoptant des sanctions. C'est-à-dire et deux séries de sanctions, hein, les sanctions qui concernent l'annexion de la Crimée et les sanctions qui concernent le conflit dans le Donbass. Et l'Ukraine a craint, en fait, y compris le président ukrainien, hein, qui milite, si je puis dire, pour au moins le maintien, voire certains demandent donc le renforcement des sanctions pour faire pression sur la Russie, pour éviter que le conflit soit relancé, par exemple, hein, premier élément, hein, qui a été un risque assez récent. Donc je ne suis pas spécialement optimiste par rapport à cette résolution du conflit, hein. Après, si on parle, et Tatiana en a un peu parlé, hein, de ces différences politiques entre ces deux pays, l'Ukraine est certes un pays beaucoup plus instable politiquement, mais c'est un pays dans lequel aucune élection n'est jouée d'avance, hein, ou assez rarement, on va dire, hein. Et l'élection de Zelensky le prouve, il faudrait voir la prochaine, mais en tous les cas, il y a une vraie compétition politique. Il y a une assez grande liberté d'expression qui rend la vie d'ailleurs des dirigeants assez difficile, puisque la mentionnée Tatiana Zelensky a pu être assez rapidement, en voulant renouer le dialogue avec la Russie, être critiquée de vouloir capituler, hein, le mot, il y avait des manifestations avec des pancartes capitulation, hein, et toute une série d'associations et d'ONG ukrainiennes ont fait une liste des lignes rouges que ne devait pas traverser le président. Donc un président ukrainien n'est jamais à l'abri, effectivement, d'un soulèvement populaire. Donc c'est une société qui est assez active et surtout qui attend. Alors ça c'est un autre sujet, mais qui même si cet activisme et en fait c'est un activisme qui n'est pas simplement contestataire, c'est une implication des Ukrainiens très importante dans un certain nombre de projets de société. Mais bien évidemment, ce qu'il regarde également, c'est la transformation, hein, de la structure économique, et je dirais économico-politique, le rôle des oligarques. Et ça, c'est l'autre versant du président ukrainien. L'autre point d'achoppement, c'est la lutte contre la corruption et le poids des oligarques dans la société ukrainienne. Alors, c'est paradoxal, ce poids des oligarques, parce que ça fait d'une société ukrainienne qui est assez composite, finalement. À la fois, il y a cette corruption, mais en fait, on a des groupes d'intérêts qui sont assez différents les uns des autres, si je puis dire. On a des oligarques qui pourraient être teintés, j'allais dire, plutôt de nationalistes, et puis d'autres qui seraient plutôt, comme Medvedchuk, par exemple, plutôt pro-russe. Alors, pro-russe, encore une fois, il y a très peu d'oligarques ukrainiens qui cherchent à faire en sorte que l'Ukraine se retrouve intégrée, absorbée en Russie, hein, puisqu'ils perdraient beaucoup de pouvoir. Hein, comme on le dit souvent, la différence entre les oligarques russes et les oligarques ukrainiens, c'est que les oligarques ukrainiens, c'est des mini-garques. Vous voyez, ils n'ont pas le même poids économique. Donc, la grande peur des oligarques ukrainiens, c'est aussi de voir arriver en Ukraine des oligarques russes qui prendraient un poids économique trop important. Hein. Donc, voilà, cette question, hein, des pro-russes est toujours, je pense qu'il faut vraiment la regarder avec une certaine nuance. Donc voilà, une société qui avance. Une société qui se transforme, mais une société qui reste minée sur le plan intérieur par un certain nombre de problèmes, y compris donc la corruption, mais bien évidemment le conflit est quelque chose d'extrêmement coûteux, hein, pas simplement coûteux en hommes, mais coûteux aussi financièrement. Le budget de la défense ukrainien a dû augmenter. Et l'Ukraine est aussi, comme vous le savez, aidée, hein, par des bailleurs de fonds étrangers dont elle dépend et qui la mettent là aussi sous pression. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser la place à la discussion.
Merci Alexandra Goujon de votre intervention. Donc, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne et enseignante à Sciences Po, spécialiste donc de l'Ukraine. Nous poursuivons donc cette soirée d'éthique publique au Centre Sèvres. Peut-être si Tatiana a des réactions sur l'intervention d'Alexandra, et puis j'aurais peut-être aussi quelques questions à relancer. Voilà, je ne sais pas si Tatiana, vous avez quelques remarques, questions ou réflexions à la suite de l'intervention précédente. Ah. Voilà, vous pouvez maintenant. Voilà.
Voilà, tout à fait. J'étais empêchée d'activer mon micro moi-même. Bah, écoutez, moi, je pense qu'on est assez en phase sur beaucoup de points avec Alexandra. Qu'est-ce que je pourrais approfondir? En effet, hein, aucune élection en Ukraine n'est jouée d'avance, et ça, c'est la grande différence avec la Russie qu'on aurait pu souligner. Donc, vraiment, il y a un rapport gouverneur, gouverné, qui est extrêmement différent. Et ça s'inscrit dans ce que je décrivais comme les tendances de l'évolution des deux sociétés qui vont dans les sens opposés. Et activisme non seulement contestataire, disait Alexandra, tout à fait, j'ai été très frappée pendant mes voyages en Ukraine, j'avais rencontré plusieurs associations là-bas, et notamment les associations qui s'occupaient des personnes déplacées, donc ceux qui ont quitté le Donbass et qui cherchaient le travail, le logement dans le reste du territoire ukrainien. Et souvent, malheureusement, l'État ukrainien se trouvait démuni devant ce genre de problème. Et ce sont les associations qui suppliaient, qui remplissaient les fonctions de l'État pour aider ces personnes-là à s'insérer dans une nouvelle vie et pour rebondir. Et ces exemples peuvent être multipliés. J'ai aussi été frappée quand les activistes, et pas forcément politiques, qui disaient « Vous, en Occident, vous devez faire pression sur nos dirigeants pour qu'ils luttent contre la corruption, ne relâchez pas la pression, etc. » C'était assez surprenant d'entendre ce discours des activistes qui proposaient à la fois de faire pression sur le gouvernement par le bas, donc par eux-mêmes, mais aussi par le haut, entre guillemets, ou par l'extérieur, par les pays occidentaux en imposant des contraintes, notamment pour les crédits du FMI, du Fonds monétaire international, qui avait aidé l'Ukraine pendant les moments difficiles. Et voilà les deux petits points dont je voudrais… Oui, juste un point aussi qui m'avait été… rapporté par les moniteurs de l'OCDE quand je disais que il y a beaucoup de personnes en fait dans les points d'optimisme qui circulent au-delà de la frontière, qui restent en contact, etc. Les observateurs de l'OCDE disent que c'est un conflit très inhabituel pour eux, qui est très différent des autres conflits. Justement parce qu'il y a beaucoup de circulation à travers la ligne de contact, des points de traversées ont été aménagées, comme Alexandra avait mentionné. Ça, c'était l'avancée de la dernière rencontre dans le format Normandie en décembre 2019. Quand Vladimir Zelensky est venu à Paris, il y avait aussi le président Poutine et la chancelière Merkel et évidemment le président Macron. Et donc, les observateurs de l'OSCE, disent que c'est un conflit qui est très différent parce que les gens continuent à se côtoyer. Ils font parfois les courses sur le même marché, dans le même supermarché. Et, ils circulent, ils ont de la famille de deux côtés du point de contact. Donc, c'est assez inhabituel. Les liens ne sont pas rompus. Bon, avec le Covid, bien évidemment, tout cet échange aussi retombe en quelque sorte. Et donc, le Covid peut aussi apporter ses points négatifs, y compris sur le règlement du conflit.
Merci et merci Tatiana de cette réaction. Je ne sais pas, avant de laisser les questions plus larges, Alexandra vous a complété ou peut-être j'aurais peut-être une question à l'une ou à l'autre ou aux deux qui porte sur la jeunesse. Tatiana y a fait allusion à la fin. Est-ce que soit la jeunesse russe ou la jeunesse ukrainienne, est-ce qu'elle exprime une vision différente des aînés, la jeunesse qui n'a pas connu évidemment l'URSS, ceux qui sont nés après la chute de l'URSS, est-ce que ils seraient, plus ouverts au contact, moins nationalistes ou peut-être l'inverse, je ne sais pas, que ce soit en Russie ou en Ukraine?
Pour parler de la Russie, il y a de plus en plus, en effet, le clivage générationnel qui se crée. Il y a encore quelques années, les sondages ne le montraient pas, mais les derniers sondages le montrent de plus en plus. Vous avez les tendances inversées chez les jeunes et les personnes à la retraite qui sont encore en effet porteurs, même s'il y a des exceptions dans les deux catégories, hein. Mais la vieille génération est encore très porteuse des valeurs soviétiques, de la recherche du protectionnisme de la part de l'État, ne comprend pas bien ce que c'est les valeurs comme les droits de l'homme, etc., est extrêmement effrayée par le pouvoir que puissent prendre les minorités, et notamment la question du mariage homosexuel. C'est une véritable obsession pour beaucoup de Russes, une obsession négative, bien évidemment. Et chez les jeunes, ces tendances sont très différentes. Poutine est moins populaire. Navalny, en revanche, l'est beaucoup plus. Son action, est, même si c'est pas la majorité, mais son action est approuvée. Il y a aussi les sources d'informations qui sont différentes pour les jeunes. C'est évidemment beaucoup plus Internet. Pour l'ancienne génération, ça reste la télévision. En gros, la télévision reste encore le média dominant pour comme source d'information, mais les réseaux sociaux montent en puissance et je pense que c'est beaucoup une question de temps, alors que les autorités russes de leur côté essaient de contrôler Internet, autant les infrastructures que les contenus qui circulent et les comportements des utilisateurs. On a quand même eu dernièrement les exemples de gens qui ont été condamnés à des amendes, voire à des peines de prison pour des posts les posts sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux qui étaient considérés comme des posts extrémistes. Il y a, par exemple, un rédacteur en chef d'un média, Mediazone, qui a fait 2 semaines en prison parce qu'il avait reposté une image humoristique qui a été interprétée comme l'appel à descendre dans la rue et de protester contre les autorités. Donc voilà, pour répondre à votre question, oui, ce clivage est de plus en plus perceptible dans les sondages entre les jeunes et les personnes, les seniors, les personnes plus âgées. Mais c'est à mettre aussi en parallèle avec le problème démographique en Russie, parce que vous avez de moins en moins de jeunes, en fait. Je cite souvent le chiffre, si au milieu des années 2000, la tranche d'âge entre 15 et 19 ans, donc c'est le réservoir pour l'armée, pour les universités, etc., le nombre de ces personnes entre 15 et 19 était de 12 millions en 2007 à peu près. Aujourd'hui, ils sont 6 millions, c'est divisé par 2. Donc c'est un chiffre qui est vraiment très frappant et c'est un problème qui va arriver et qui va, dans les 10 prochaines années, c'est le problème qui va en fait définir aussi l'avenir de la Russie. Et en même temps, le nombre de retraités augmente. Ils étaient à la même période vers 2007, 2008. Ils sont à peu près 29 millions. Ils sont quasiment 35 millions aujourd'hui. Donc c'est la catégorie d'âge qui s'élargit. Et à mon avis, la réforme des retraites extrêmement impopulaire, et c'est plutôt elle, plutôt que les histoires de Navalny ou les histoires d'absence de liberté politique qui ont entamé la popularité de Vladimir Poutine, c'est l'annonce de la réforme des retraites, mais c'est dicté aussi par le fait de ce déséquilibre démographique où il y a de moins en moins de jeunes et de plus en plus de retraités. C'est un défi socio-économique que les autorités russes devront gérer.
Merci Tatiana. Alexandra, pour l'Ukraine, est-ce qu'il y a aussi cette différence générationnelle ou est-ce qu'elle est différente?
Alors, moi je pense que il y a une différence générationnelle peut-être en ce qui concerne, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a quand même aussi la question du conflit. Donc, la relation en fait à la politique. Et comme Tatiana en a parlé, aux valeurs européennes, etc. C'est-à-dire bien évidemment pour ceux qui n'ont jamais connu l'Union soviétique et qui ont connu une Ukraine, libre avec des élections, avec cette liberté de manifestation. Il peut y avoir cet attachement et parfois, notamment au moment, ne l'oublions pas, en Ukraine, il y a eu quand même deux révolutions politiques, ou du moins donc deux grands mouvements contestataires. Et là, il peut y avoir à ce moment-là des conflits générationnels, hein, c'est-à-dire que je peux d'ailleurs observer si je fais ce petit parallèle avec ce qui a pu se passer en Biélorussie, par exemple, hein, où c'est vraiment la jeune génération qu'on a retrouvée comme très très impliqué dans cette volonté de liberté, hein. La candidate à l'élection, la Tikhanovskaya, elle représente, hein, aussi cette jeune génération. Si on prend par rapport, par exemple, au conflit, ça me paraît vraiment beaucoup plus complexe. Je pense que ça dépend beaucoup du milieu dans lequel on évolue. Hein, voilà, est-ce qu'on est dans un milieu plus nationaliste ou au contraire un milieu qui a été déclassé par la chute de l'URSS, et donc en fonction de son milieu social et de l'information qu'on va pouvoir de l'environnement informationnel, en fait. Ça rejoint ce que dit aussi Tatiana, mais je ne sais pas si, bien évidemment, les jeunes s'informent par les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de fake news sur les réseaux sociaux, et il y a beaucoup de, comment dire, de, on sait aujourd'hui, les études françaises nous le montrent, qu'en fait, les réseaux sociaux, généralement, permettent d'entretenir ses propres convictions plutôt que de les transformer. Hein, c'est-à-dire qu'on se met dans des bulles informationnelles qui vont venir conforter nos opinions. Donc, je dirais qu'en voilà, et j'aurais du mal à dire, par exemple, que côté ukrainien, les jeunes sont plus ou moins nationalistes qu'avant. J'aurais vraiment beaucoup de mal. Le conflit aussi a entraîné des changements d'optique en Ukraine, je pense, dans toutes les générations. Et bien évidemment, tout dépend de l'environnement informationnel dans lequel on est, et là il y a les régions comptent aussi, hein. Dans le Donbass, on n'est pas on s'informe pas tout à fait de la même manière, on n'a pas le même environnement informationnel que dans un certain nombre de villes ukrainiennes, que ce soit Kiev ou Odessa, Lviv, voilà. Mais donc il y a un clivage, je pense, plutôt sur la question des valeurs, hein, par rapport au conflit. Ça me paraît beaucoup plus compliqué et composite.
Voilà, merci. Merci à Tatiana et Sandra pour ces deux contributions substantielles. Donc, dans ce cadre de ce mardi d'éthique publique du Centre Sèvres qui aborde la question du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Je laisse maintenant la parole à Jean-Luc Poutier pour la deuxième phase où nous recueillons des questions des participants. Donc, il y a déjà des questions écrites. Donc, les questions se feront à l'écrit. Et je laisse maintenant la parole à Jean-Luc.
Merci beaucoup. Effectivement, il y a déjà plusieurs questions. Alors, la toute première portait sur un documentaire qui a été diffusé sur Netflix, qui s'intitule Winter on Fire, sur le mouvement Euromaïdan. Et la question porte sur la réception en Ukraine de ce documentaire, s'il a été vu en Ukraine, et en annexe, la personne qui pose la question demande quel type de relation vous pouvez avoir avec les populations locales quand vous travaillez sur le terrain. Ça, c'est une première question. Alors, il y a plusieurs questions sur l'OTAN et l'Union européenne, sur les démarches entreprises par l'Ukraine pour adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne. Et les questions se ressemblent. Elles sont de savoir pourquoi cette entrée éventuelle de l'Ukraine dans l'OTAN et l'Union européenne est si compliquée, où sont les responsabilités, est-ce que c'est plutôt du côté russe, plutôt du côté européen, où des maladresses auraient pu être commises vis-à-vis de la Russie, qui l'aurait braqué contre une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Voilà, une troisième question, sait-on quel est l'état d'esprit de la population en Crimée? Je crois que vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais vous pouvez peut-être approfondir. Personnellement, je me permettrai d'ajouter une question à ce qui est évoqué sur une éventuelle entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ou dans l'OTAN, ou est dans l'OTAN. Quel est le point de vue des États frontaliers de l'Ukraine sur ces questions? Qu'est-ce qu'en pensent notamment les Polonais, bon, les Biélorusses, c'est peut-être plus compliqué à savoir. Est-ce que les Polonais sont très favorables à une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne?
Oui, merci beaucoup. Alexandra, tu souhaites que je commence? Ou je peux te laisser aussi commencer?
Je peux...
Comme tu veux. Bon, je peux commencer. Juste pour ajouter un point sur les jeunes, et c'est ce que disait Alexandra, me fait penser à ça, qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais connu l'URSS. En même temps, il y en a aussi parmi les jeunes qui souhaitent le retour à l'URSS, qui sont complètement, qui adhèrent à la politique intérieure russe, etc. Et en fait, les jeunes russes, souvent, sont sous l'influence de leurs aînés, qui, eux, sont à la recherche de l'âge d'or perdu, qui est souvent l'ère Brejnev. Et souvent, dans les familles russes, bon, de moins en moins quand même par rapport à l'époque soviétique, mais on continue à vivre ensemble, c'est les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants, etc., et qui racontent comment la vie était belle, comment tout le monde était égaux, il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, cette nostalgie de l'âge d'or perdu, même si certaines jeunes ne l'ont jamais connu. Et en même temps, vous avez, face à cela, vous avez quand même aussi toute la propagande dans les écoles, un peu moins dans les universités, mais aussi quand même, qui raconte les choses d'une certaine manière, et donc c'est un discours auquel il faut adhérer. Et si les jeunes ils participent à la manifestation contre Navalny, tout de suite à l'école, ils sont convoqués par les professeurs, le directeur, etc. Il y a toute une machine qui peut aller jusqu'à très très loin en fait, qui c'est très dissuasif pour les jeunes. Hein. On peut non seulement se retrouver sous les matraques des policiers le jour de la manifestation dans la rue, mais aussi avoir des conséquences par la suite pour les études, pour les parents, etc. Il y a un certain côté chez tous les Russes très pragmatique, on se tient loin de la politique, on essaie de vivre comme on peut, on s'implique pas, on s'y intéresse pas. Il y a ce côté-là, s'intéresser à la politique c'est quelque chose tellement sale que même s'intéresser à la politique sans parler de faire de la politique est considéré comme quelque chose de pas très très respectable. On peut passer tout à fait avec les Russes une soirée entière où il sera quasiment pas question de la politique, on ne parlera que de la famille, des choses culturelles, etc., parce que la politique ça fâche. Et en même temps, le conflit ukrainien, ça, Alexandra, c'est très bien, à créer des clivages, y compris entre les amis et dans la famille, tellement les gens ont adhéré à des interprétations différentes. Le type de je ne sais pas répondre malheureusement sur le documentaire sur Netflix parce que je l'ai pas vu, mais du coup je note le nom et je vais le regarder pour pouvoir répondre peut-être la prochaine fois. En revanche, le type de rapport avec les populations locales, pour moi, ça se pose d'une manière très différente. J'ai ma famille, mes parents, ma sœur qui sont à Yekaterinbourg, beaucoup de contacts à Moscou où j'ai fait mes études. Quand je fais mon terrain, donc là, je fais les visites très ciblées. Je passe une semaine avec 5-6 rendez-vous par jour. On n'y discute que de la politique avec les collègues experts, avec les dans les ministères, avec les entrepreneurs, etc. Et le type de relation peut être assez inattendu parfois. Par exemple, pour raconter l'anecdote, mais qui est très parlante, au ministère des Affaires étrangères, la dernière fois quand j'ai eu affaire à un chef de département, j'ai eu affaire à une attitude extrêmement violente, même je dirais, parce que la personne considérait qu'en tant que diaspora russe à Paris, j'étais censée être le conducteur, le guide de la politique russe. Et donc, je ne faisais pas suffisamment mon travail, ce qui m'a été reproché. Mais ça, c'est plutôt rare. En général, les opinions peuvent être différentes, mais l'attitude reste professionnelle, même si les Russes ne se gênent pas pour dire ce qu'ils pensent de la politique occidentale. Hein, aussi des déceptions, ça permet de répondre à la question. Oui, en effet, l'élargissement de l'OTAN, les Russes considèrent cela comme une promesse qui a été donnée à Gorbatchev et n'a pas été tenue. Bon, c'est toute une histoire, parce qu'en réalité, cette promesse n'a jamais été concrétisée ou mise par écrit, et elle était assez vague, et semble-t-il qu'elle se limitait plutôt à ne pas faire stationner les troupes de l'OTAN dans la partie est de l'Allemagne. Donc, il y a beaucoup de mythes autour de cette question et de cette promesse. En tout cas, il n'y a aucun document écrit qui engage l'OTAN à ne pas élargir, à ne pas s'élargir vers l'est. Et le problème, c'est que ces pays-là, les pays comme la Pologne ou les pays baltes, étaient extrêmement demandeurs, justement pour se protéger, pour protéger l'intégrité territoriale, la souveraineté, pour jamais plus connaître ce qu'ils ont pu connaître dans les relations avec la Russie. Ils étaient extrêmement demandeurs d'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Et aujourd'hui, en Ukraine, Alexandra me corrigera, hein, mais je crois qu'il y a une attitude différente à l'égard de l'OTAN et à l'égard de l'Union européenne. L'Union européenne, la plupart d'Ukrainiens le voient d'une manière très très positive et le voient comme un modèle auquel il faut aspirer et qui peut tirer l'Ukraine vers le haut. Le temps, c'est une autre paire de manches. Le temps, d'après ce que me disent mes contacts ukrainiens, est plutôt un projet des élites ukrainienne plutôt que de la population, justement dans cette démarche de protection de la souveraineté, de l'intégrité territoriale contre le voisin russe. Et la population est beaucoup plus partagée dans son regard sur l'OTAN. Je crois qu'il n'y a que moins de 40% qui soutiennent l'adhésion à l'OTAN dans la population ukrainienne. Et le problème se pose aussi côté Union européenne, qui affiche très clairement la fatigue des élargissements, et aussi côté OTAN. Et en outre, il y a aussi le fait qu'un pays qui a un conflit territorial sur son sol ne peut pas être membre de l'OTAN ou de l'Union européenne. Ça engagerait automatiquement l'organisation qui accueille, donc l'OTAN ou l'Union européenne, dans le conflit avec, dans notre cas, avec la Russie, qui est quand même la puissance nucléaire. D'où pourquoi Alexandra a mentionné différents conflits gelés sur les territoires, justement des pays qui sont les plus pro-européens, entre guillemets, et pro-otaniens. C'est aussi un moyen de gérer la relation avec ces États-là et d'empêcher leur adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne, qui est de maintenir non réglés ces conflits gelés sur leur territoire. Alexandra, je te laisse compléter.
Oui, alors donc le film Winter on Fire, oui, bien sûr, très 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 connu, mais il y a d'autres films. Il y a le film d'un réalisateur du réalisateur Losnitsa qui s'appelle Maïdan. Il y a des films en fait sur Maïdan. Alors, quand vous mettez, comment qualifierez-vous la réception de ce traitement médiatique? C'est un documentaire auprès de la population. C'est très compliqué parce qu'en fait, ça nous embarque dans un autre sujet. Je vais essayer d'être synthétique. Moi, j'ai travaillé un peu sur la mémoire de Maïdan en Ukraine et j'y suis allée aussi à plusieurs reprises au moment de Maïdan. Aujourd'hui, il y a une partie des personnes qui travaillent sur ce mouvement révolutionnaire qui cherche à le mémorialiser. Hein. Il y a d'ailleurs aujourd'hui un centre d'information sur la place elle-même où vous pouvez être accueilli et on vous explique. Et il y a un musée Maïdan en projet avec un lieu justement sur les hauteurs de Kiev, pas très loin de l'hôtel Ukraine, là en face de l'hôtel Ukraine. Où il doit y avoir un musée Maïdan. Il y a aussi cette allée des héros, par rapport à la ceinturie céleste, donc ces 100 manifestants tués. Alors, voilà, y a aussi des controverses, comme vous le savez, sur le fait qu'on dit qu'une partie des manifestants ukrainiens étaient aussi armés, puisqu'il y a des policiers qui ont été tués, etc. Donc, le débat en Ukraine, il existe sur Maïdan. Il y a des anti-Maïdan, des pro-Maïdan, il y a, si je puis dire, l'Ukraine, de ce point de vue-là, on trouve toutes les opinions politiques, et voilà, moi, je peux l'entendre parfois critiquer. Alors, bien évidemment, comme Kiev était quand même le point d'orgue et la population kievienne très impliquée, on a un rapport à Kiev, à Maïdan, qui est complètement différent d'ailleurs, et surtout, tout dépend de là où là où on se trouvait à ce moment-là. Mais n'oublions pas qu'aussi à Kiev, il y avait beaucoup de gens des régions, hein, et qui circulaient d'ailleurs d'une région, qui venaient 3 jours à Maïdan et qui revenaient. Voilà, donc la réception de ce mouvement est très différente aussi selon les régions. Et c'est vrai que dans le Donbass, on a une partie de la population, moi qui vais dans le Donbass côté ukrainien, une partie de la population qui critique cette révolution, hein, d'ailleurs ça a généré un ressentiment, cette révolution dans cette région, c'est-à-dire pourquoi faire une révolution, enfin on comprend pas cette contestation populaire, et d'autres au contraire qui ont été investis, qui sont un peu plus minoritaires, mais je connais des gens qui ont été investis dans Maïdan et qui ont essayé de faire des manifestations au niveau local. N'oublions pas que à Donetsk aussi, il y a eu des manifestations pour le changement. Mais n'oublions pas non plus que le président de l'époque était quand même originaire du Donbass, hein, donc était censé le représenter. Donc voilà, sur les populations, alors moi j'essaye effectivement, justement, je vais dans ces territoires un peu reculés. Je peux vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais donc dans un taxi, enfin un taxi ou une voiture, hein, qui fait office de taxi. Et puis là, le chauffeur de taxi me dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire dans ce trou ?» Donc, c'était une petite ville de l'Est ukrainien. Et je lui dis « Bah justement, je suis là parce que personne ne vient. » C'est-à-dire que je vais là où il n'y a pas beaucoup de politistes. Alors, il y avait aussi le fait qu'il y avait ce conflit et que je voulais essayer de le comprendre par le bas, et donc je vais régulièrement dans une ville slaviante qui a été occupée par les séparatistes pendant 3 mois. Et je fais du terrain, je rencontre des gens assez différents. Alors plutôt effectivement des gens qui sont engagés, parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir ce qu'ils faisaient, notamment ces citoyens engagés dans l'aide humanitaire, l'aide aux soldats, ce qui me permet aussi parfois de m'approcher de la ligne de contact et de voir un petit peu les conditions en fait de vie. Et puis je travaille aussi sur la transformation de la politique locale, parce que voilà, ben, comme partout, il y a des paniers de crabes, et c'est toujours intéressant de voir la politique aussi. Je suis beaucoup ce qui se fait à Kiev, mais de voir aussi ce qui se passe au niveau local. Voilà mon lien au terrain. Alors, sur la question de la maladresse de l'Union européenne, je vais être très claire, je considère que l'Union européenne n'a pas été maladroite. Parce que l'Union européenne a proposé, a des relations avec tous ses voisins, et elle a un partenariat avec la Russie. Donc, il n'y a pas l'idée de privilégier la Géorgie, l'Ukraine, plus que la Russie. La Russie est un partenaire fondamental pour l'Union européenne. Par contre, la question qui se pose, c'est lorsqu'on a des pays comme l'Ukraine qui disent « on veut adhérer », comment on leur répond ? Et la réponse de l'Union européenne, ça a été de dire « on va vous proposer un accord d'association ». C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous rapprocher de nous, on va vous aider à vous développer économiquement, à vous démocratiser, mais on ne vous propose pas de rentrer. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas de perspective d'adhésion à l'Union européenne. Et l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle évoque ? Il y avait une question là-dessus, les facteurs. L'Union européenne, elle évoque ce qu'on appelle la capacité d'absorption aujourd'hui. Et si les dirigeants européens aujourd'hui sont d'accord pour dire qu'il doit y avoir un élargissement à moyen terme aux Balkans, c'est-à-dire à la Serbie, à la Bosnie, à l'Albanie, voilà. Ça, c'est un processus politique d'élargissement. L'Ukraine et la Géorgie font partie de la politique de voisinage. Ils ne sont pas amenés à devenir un jour membres de l'Union européenne, même si eux le souhaitent. Donc l'Union européenne a été assez claire sur ses positions. Il n'y a pas de volonté d'intégration. Et aujourd'hui, l'Union européenne, avec le Brexit, etc., cherche plutôt à se consolider qu'à s'élargir, encore une fois, en dehors de ces pays de l'ex-Yougoslavie et de l'Albanie. Pour l'OTAN, c'est complètement autre chose. L'OTAN implique comme l'a dit Tatiana, à la différence de l'Union européenne, l'Ukraine dans l'OTAN, ça veut dire que quand un pays est agressé, tous les autres lui viennent en aide. Il y a 30 États membres aujourd'hui. Hein. S'il y en a un qui est agressé par un autre pays, les 29 lui viennent en aide militairement. Hein. Et c'est pour ça qu'en fait, même si l'OTAN est moins populaire que l'Union européenne en Ukraine, avec le conflit, sa popularité a augmenté. Pourquoi ? Parce que les Ukrainiens disent, si on était dans l'OTAN comme les Polonais, on ne se serait pas fait agresser militairement. Donc en fait, voilà. Après, vous avez le regard inverse de dire, oh là là, si jamais on met sur le tapis l'adhésion à l'OTAN, ça va attiser la menace du côté russe et ça nous met encore plus en danger. Hein, donc vous avez vraiment ces deux positions en Ukraine. Alors pour qu'un État rentre dans l'OTAN, il faut l'accord unanime des 30 États. Aujourd'hui, il y a des pays qui sont favorable. Jean-Luc Poutier parlait donc des voisins. Bah, il y a eu une déclaration très récente de la Pologne et d'autres pays voisins, des pays baltes, qui soutiennent l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc l'Ukraine dispose à l'intérieur de l'OTAN, y compris de l'Union européenne, d'alliés hein, et de porte-voix. Pourquoi ? Parce que les pays baltes et les Polonais, ils veulent étendre cette zone de sécurité qui, pour eux, est une zone qu'ils considèrent comme étant une zone de sécurité. La France et l'Allemagne sont pas du tout pour une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il y a déjà l'OTAN à gérer en tant que telle. Et bien évidemment, l'idée, et c'est pour ça que je trouve que cette idée que l'Ukraine ou les dirigeants l'Union européenne ou les dirigeants occidentaux auraient été maladroits, au contraire, je pense qu'ils ont essayé de minimiser l'irritation de la Russie. Et c'est quelque chose qu'ils prennent en compte depuis très longtemps, et notamment depuis qu'on a eu un discours russe quand même assez ferme sur ces questions. Je m'arrête là, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, pardon.
Alexandra, on n'a pas répondu à la question avec toi sur l'état d'esprit de la population en Crimée. Je ne sais pas si tu as des éléments.
Vu que je suis la Crimée du point de vue ukrainien, si tu veux, Alors, moi, je pense, effectivement, tu as parlé d'investissement, etc. Je ne sais pas s'il y a c'est sûr qu'avec ce qui se passe en Ukraine, il y a une méfiance en Crimée. Mais moi, je travaille aussi sur la discrimination des Tatars de Crimée. Donc, si tu veux, c'est très difficile de parler d'état d'esprit, si je puis dire. Pour ceux qui étaient favorables au rattachement, on va dire ça comme ça, je pense qu'il doit y avoir peut-être un état d'esprit peut-être mitigé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quand même des problèmes d'approvisionnement en eau, comme tu l'as mentionné, c'est-à-dire est-ce que par rapport à ce que souhaitait la population, est-ce que tout est comblé, je n'en suis pas sûre. Ça ne veut pas dire qu'ils regrettent le rattachement, hein, mais je veux dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de, il n'y avait pas des espérances qui étaient beaucoup plus importantes que ce qu'ils ont reçu. Ça, c'est sûr que les Russes mettent de l'argent en Crimée, mais il va falloir régler quand même cette question de l'eau. Et puis pour ceux qui étaient contre le rattachement, et donc je dirais une partie des Ukrainiens, une partie des Tatars de Crimée, pour eux, c'est beaucoup plus dur. Parce qu'en fait, on ne peut pas aujourd'hui se dire contre l'annexion en Crimée. Hein. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression sur ce point. Hein. On ne peut pas arborer le drapeau ukrainien. On peut pas. Donc voilà. Mais je te laisse, Tatiana.
Bon, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que si on posait la question aux Criméens s'ils souhaitent revenir à l'Ukraine, faire les choses différemment, etc., la réponse sera très claire, hein. Ils sont ce moment d'intégration, annexion a été vécu comme le retour à la maison pour les Criméens, très clairement. Même si on a pu critiquer les conditions d'organisation du référendum, l'absence de la véritable concurrence, un peu le référendum sous les fusils. Je pense que le résultat aurait été, dans d'autres conditions, le résultat aurait été le même. La majorité des Ukrainiens auraient voté pour réintégrer la Russie. Et ceci pour plusieurs raisons. D'une part, il y a le niveau de vie en Russie qui est un peu supérieur. Donc, évidemment, ça, on se dit, on va vivre au mieux. Et il y a aussi tout le travail que les Russes avaient fait, en réalité, très en amont. La Crimée, avec la majorité de la population russophone, avec les médias russophones, la filiale de l'Université d'État de Moscou qui forme les élites locales, les liens très forts avec les marins de la flotte russe à Sébastopol, etc. La Crimée, très clairement, avait autant, au moins autant d'attaches à la Russie qu'à l'Ukraine à cette époque. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit peu, il y a à la fois, comment dire, peut-être le progrès n'est pas suffisant pour les Ukrainiens. Je suis quelques blogueurs criméens, notamment le blogueur Gorny sur la radio Écho de Moscou, qui a aussi des blogs et qui fait part de quelques désenchantements par rapport à la corruption, par rapport aux Russes du métropole, entre guillemets, qui viennent, qui, étant plus riches, achètent les meilleurs morceaux, qui interdisent les accès à certains morceaux de la plage, etc. La vidéo sur le palais de Poutine aussi a remué quelques plaies voilà, quelques oligarques russes achètent aussi sur la côte criméenne et limitent les accès. Et il y a les Tatars de Crimée qu'Alexandra a mentionné, et le problème d'eau est en réalité, c'est quelque chose de très sérieux parce que les Criméens, ils ont l'eau quelques heures par jour, et ceci la veille d'une saison touristique qui s'annonce quand même chaude parce que la Russie a fermé les liens aériens avec la Turquie officiellement pour cause de Covid, mais on soupçonne d'ailleurs aussi qu'elle les a fermés parce que la Turquie soutient un petit peu trop l'Ukraine en ce moment en la réarmant, en lui vendant des drones et en soutenant les Tatars de la Crimée et évidemment en soutenant aussi l'intégrité territoriale de l'Ukraine avec la Crimée comme partie de l'Ukraine. Donc ça, c'est une autre pierre. Et le problème de l'eau ne peut pas être résolu facilement. En vérité, les Russes tentent deux options, soit la construction des sites pour dessaler l'eau de mer, ce qui est extrêmement coûteux, et les Russes n'ont pas les technologies aujourd'hui pour le faire, pour que ce soit rentable. Soit, pour vous dire, ça me fait penser un peu au projet pharaonique de l'époque soviétique, chercher de l'eau potable, de l'eau douce, sous le lit de la mer d'Azov, hein, ce qui est un projet extrêmement coûteux, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, on est très loin du règlement de ce problème en Crimée.
Jean-Luc, ton micro.
Je suppose que la question s'adresse à Alexandra Goujon. Un auditeur aimerait que soit approfondie cette question du fait que il n'est pas envisagé ni envisageable que l'Ukraine puisse adhérer à l'Union européenne dans un avenir prévisible. Alors, est-ce que c'est une question formelle de la politique européenne ou est-ce qu'il y a des arguments de fond? Et dans ce cas-là, ce qui est évoqué, c'est le fait que, par exemple, d'autres pays de la zone communiste sont entrés dans l'Europe en même temps qu'ils connaissaient une transition démocratique.
Alors, ce que j'aimerais revenir justement sur 1989 et la fin des régimes communistes, en fait. Il faut bien voir que l'Union européenne, c'est pour ça qu'on prétend beaucoup de choses à l'Union européenne, mais l'Union européenne n'a pas souhaité s'élargir à tout prix. Souvenez-vous d'ailleurs de 1990. Voilà, ça a été très... y compris à l'époque le président français qui n'était pas favorable à un élargissement. Il y avait une très grande peur de cet élargissement au régime communiste. La question, c'est l'Union européenne, c'est plutôt pourquoi et comment on dit non si on dit non ? Quel argument on a ? Et là, la pression était tellement forte côté Pologne, Tchécoslovaquie, etc., que les Européens ont fini par céder sur cet élargissement-là. Et n'oublions pas aussi qu'après, il y avait un aspect, il y a des aspects, bon, c'est toujours compliqué, parce que l'élargissement, ça va aussi avec le fait qu'on construit un marché unique, on construit une zone euro. Donc, quelque part, du point de vue de la mondialisation, c'est aussi plus important d'être un peu plus gros économiquement. C'est pour ça, d'ailleurs, les Britanniques étaient, eux, beaucoup plus favorables à une politique d'élargissement que d'autres pays, par exemple, comme les Français. Ils étaient favorables à une Union européenne comme une sorte de grosse zone de libre-échange qui pouvait peser, donc, du point de vue international. Une fois qu'on est dans l'Union, c'est bien les pays qui sont dans une organisation qui décide de qui rentre ou qui ne rentre pas. En l'occurrence, là, le processus, il est assez simple. Il faut faire rentrer un candidat dans la politique d'élargissement. Donc, si un pays frappe à la porte, c'est les États membres qui, de manière consensuelle, doivent se mettre d'accord pour lui dire « d'accord, tu rentres ». Après un certain temps, une fois que le processus de, notamment d'intégration, toutes les normes européennes, une fois que tu seras démocratique, etc., tu pourras rentrer. Et effectivement, en 2004, s'est posé la question, après l'entrée des pays dont j'ai parlé, hein, anciennement communistes, s'est posé la question, que faire des voisins ? Puisque techniquement, effectivement, l'Ukraine, la Géorgie, ce sont des États européens. S'ils sont démocratiques et qu'ils appliquent les normes européennes, ils peuvent techniquement rentrer dans l'UE. Mais l'UE a créé cette politique de voisinage justement pour montrer que c'était pas l'élargissement, on va dire, progressif, qu'il y avait un temps de réflexion, et elle a rajouté quelques années après cette notion de capacité d'absorption pour montrer que l'Union européenne, eh bien, il fallait qu'elle se consolide, qu'elle accomplisse l'élargissement en cours avant d'éventuellement envisager d'autres élargissements. Ça ne veut pas dire que l'élargissement à l'Ukraine ne se fera pas dans, je ne sais pas, dans 20, 30 ans, pourquoi pas. Mais en tous les cas, c'est pas la priorité aujourd'hui de l'Union européenne que de s'élargir. Mais je rappelle quand même 90, parce que ce n'était pas la priorité non plus à ce moment-là. Et puis n'oublions pas aussi, par exemple, que l'Union européenne, elle fonctionne d'une certaine manière. L'intégration de pays, plus on intègre des pays, plus il est difficile de se mettre d'accord. Donc ça complexifie aussi, le fonctionnement. Et l'Ukraine est un pays relativement important, hein, plus de 40 millions d'habitants. Donc c'est pas un petit pays, je veux dire, c'est pas la Moldavie, hein, c'est pas la Lituanie. Donc en termes d'absorption, c'est quand même très important aussi. Le micro.
Voilà. C'est un tout petit peu compliqué parce que c'est toi qui dois me donner la permission de parler. Ok. Bon, mais écoutez, merci pour toutes ces précisions. Alors, il y a une dernière réaction qui dit imposer une entrée conditionnée aux normes de l'Union européenne aux pays candidats alors même que les pays membres ne respectent pas toutes ces normes. Oui, ce serait ultérieurement, effectivement, que cette question pourrait être débattue. Elle ne semble pas, pour l'instant, être d'actualité. Merci beaucoup.
Juste de rebondir à cette question, il y a deux choses. Les 60% du PIB, ça concerne la zone euro, ça ne concerne pas l'Union européenne. Et souvent, on confond les deux, c'est-à-dire les fameux critères de convergence auxquels on déroge, c'est des critères de convergence qui concernent la zone euro et qui ne concernent pas l'Union européenne en tant que telle. Donc, c'est deux choses quand même assez différentes. Mais il est vrai que lorsqu'on intègre aujourd'hui l'Union européenne, on s'engage un jour à adopter la monnaie. À part la Suède, le Danemark qui a obtenu une clause spécifique.
Bon, une toute dernière question peut-être, parce que je crois que nous avons déjà dépassé le temps dont nous disposions. Quelle est la politique des visas vis-à-vis des Ukrainiens ? Qui peut répondre ?
Alexandra, je peux te laisser répondre, mais c'est un régime sans visa aujourd'hui jusqu'à 90 jours. Donc le fameux bezviz, le régime sans visa que Poroshenko a réussi à obtenir et qui était l'un des grands succès en fait de son mandat présidentiel.
Ça fait partie, je vais revenir juste un tout petit peu sur cette politique de voisinage. La politique de voisinage, elle a été créée pour éviter un nouveau rideau de fer en Europe. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, que j'ai oublié de mentionner. C'est-à-dire que l'idée, ça n'est pas de créer justement une espèce de frontière. Les voisins sont vraiment différents. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes complètement en dehors. L'idée, c'est de créer justement, de faire en sorte d'aider, hein, financièrement, mais aussi, je veux dire, d'avoir la délégation de l'Union européenne à Kiev est assez conséquente en termes de personnel. Et elle a fait un gros travail. Souvent, on parle des aides, effectivement, du FMI. Et d'éventuels pays étrangers comme les États-Unis, mais l'Union européenne a vraiment une aide très importante. Et en fait, par rapport à cet accord d'association dont je parlais, ça fait partie du package. C'est-à-dire que l'accord d'association, c'est un accord cadre. Il y a un accord de libre-échange qui va avec et il y a un accord qu'on appelle donc de facilitation des visas qui est en fait l'idée. Et aujourd'hui, les citoyens ukrainiens comme géorgiens et moldaves peuvent donc se rendre pour 80 jours sur le territoire de l'UE sans visa. Et ça a posé, oui, de nombreux problèmes parce que notamment, il fallait s'assurer de la manière dont étaient délivrés les passeports. Et notamment des passeports électroniques qui devaient être fortement sécurisés. C'est pour ça que ça a été un petit peu retardé. Mais voilà. Et une autre petite chose qu'on n'a pas évoquée avec Tatiana, mais à laquelle j'ai pensé lorsque tu as évoqué la question de la démographie, c'est la question des migrations. Beaucoup d'Ukrainiens partent. Alors, c'est le cas aussi des Balkans. Enfin, c'est dans pas mal de pays d'Europe de l'Est, on a ce départ de gens qui vivent à l'étranger. Et il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vivent notamment en Pologne, donc et qui y travaillent. Et donc, ce régime, bien sûr, sans visa, a pu leur être assez favorable.
Merci beaucoup pour ces réponses approfondies, François. Je te rends la parole que tu m'as prêtée tout à l'heure.
Merci. Donc, il ne reste plus qu'à vous remercier, Tatiana et Alexandra, d'avoir prêté à ce jeu de conférences et de questions très riches, qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe dans des régions qui ne sont pas si loin de nous. Hein. Kiev, c'est 2h30 d'avion, je ne sais plus, ou 3 heures d'avion de Paris. Trois, ça, c'est ça, oui. Moscou un peu plus loin, mais enfin, c'est pas très. C'est dans notre étranger proche, comme on dit en Russie. Et, donc, voilà, merci pour ces interventions. Et donc, vous avez aussi des livres tout à fait intéressants, celui de Tatiana sur la Russie de Poutine en sans question, celui un peu plus ancien d'Alexandra sur la révolution politique identitaire, mais aussi des articles que vous trouverez sur vos sites qui permettront d'enrichir la réflexion. Voilà, et bien écoutez, bonne soirée à toutes et à tous. Dziękuję, спасибо, et à une prochaine fois, j'espère. Bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci.